Carrefour.
Quand vous me dites
« C'est génial les capsules, c'est toujours la bonne dose !»
Eh bien j'ai juste envie de vous dire qu'avec 34% de remise immédiate, la lessive en capsule 3 en 1 skip 26 lavages est à 6,84€ seulement au lieu de 10,37€. Et c'est jusqu'au 28 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 549 grammes, soit 12,46€ le kilo, détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC. RMC, Estelle Midi.
Il est midi 7, vous êtes sur RMC et on va démarrer tout de suite Estelle Midi avec l'actualité du jour. Et c'est ce chiffre tombé ce matin. La croissance française a été nulle, 0% au premier trimestre. Une mauvaise nouvelle, d'autant plus que la consommation des ménages a baissé le mois dernier et que le moral des Français est en berne. Rien ne va plus, Martin Bourdin.
Et pourtant, la reprise économique l'année dernière nous avait permis de retrouver un peu le sourire. Mais depuis, rien ne va plus, patatras, la vague Omicron très forte en janvier, augmentation des prix de l'énergie, guerre en Ukraine fin février, tout cela a anéanti la croissance française, c'est moins que les prévisions de la Banque de France, moins aussi que les prévisions de l'INSEE, un zéro pointé qui s'explique notamment par la baisse de la consommation des ménages, la consommation alimentaire notamment dégringole, celle de l'énergie évidemment aussi. La guerre en Ukraine a fortement contraint nos dépenses, l'inflation continue d'accélérer, les prix ont augmenté de 4,8% sur un an, là aussi le chiffre est tombé ce matin. Tous nos produits du quotidien sont plus chers, la viande, les pâtes, les céréales, les matières premières, la bière aussi, on en a parlé dans le journal et je tenais à le citer, tout augmente. Et beaucoup de professionnels nous expliquent qu'il va falloir s'habituer à ces hausses de prix, que ça va continuer. Tout ça, et bien évidemment, ça joue sur notre morale. Un indicateur de l'INSEE montre que notre morale est aussi bas actuellement quasiment que fin 2018, quand le mouvement des Gilets jaunes avait dégénéré, ou que en 2020, quand on était confiné. Dans un sondage publié il y a quelques semaines, 36% des Français disaient ne pas réussir à boucler les fins de mois, 37% n'arrivaient pas à vivre décemment.
Le pire est-il devant nous ? Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour l'avenir ? Je vais commencer avec vous, Pierre Rondeau.
Anne, je ne vais pas vous le cacher, je suis très inquiet. Ouais, je suis très inquiet parce que, alors déjà, on parle d'une inflation en France de 4,8%. Rappelons que la moyenne de la zone euro, c'est 7,5%. Ouais. Rappelons qu'en France, on peut se plaindre et s'inquiéter de l'avenir. Le gouvernement, on peut lui en tenir rigueur, a mis en place des mesures pour juguler, contrôler cette inflation, qui, dans tous les pays européens, décolle. Elle est à 7% de moyenne dans toute la zone euro.
5, c'est énorme aussi. Hein.
Mais je dis pas le contraire, 4,8 c'est énorme aussi, mais et le problème c'est que ces mesures prises par le gouvernement ne sont pas faites pour durer longtemps. Donc d'ici quelques mois, elles vont s'arrêter, elles vont se tarir. Les mesures pour le gaz, pour le pétrole, pour la consommation, à la rentrée prochaine, ça va s'arrêter et donc on va subir cette augmentation, cette inflation qui est accélérée et soutenue et pérennisée par à la fois le conflit en Ukraine, par les crises climatiques, environnementales, les crises diplomatiques, la crise pandémique. Je me suis réveillé ce matin donc en apprenant ces informations sur l'inflation et en plus on apprend qu'il y a un premier cas de grippe aviaire en Chine.
Transmis à l'humain.
Oui,
Broyer du noir, mais on peut s'inquiéter. Et si je prends uniquement le cas de l'inflation ou de la croissance, parce que la croissance c'est pareil, la croissance 0% actuellement. J'avais lu des rapports qui dataient d'il y a un an de l'OFCE, mais aussi de la Banque française, la Banque de France, qui disait que pour rattraper la perte due au premier confinement entre 2020 et 2021, on était à moins 8% de croissance. Il fallait espérer une croissance comprise entre 4 et 8% d'ici 2022-2023. 4 et 8%.
On est à zéro.
On annonce zéro. Donc, voilà, c'est pas uniquement propre à la France, c'est mondial. C'est un phénomène mondial, diplomatique, environnemental, climatique, sanitaire, économique, monétaire. On aura beau augmenter les salaires, si on augmente les salaires,
oui, c'est ça.
Quand bien même, on ne pourra pas rattraper. Parce que, je prends un exemple intéressant par rapport à la production. On nous dit, les prix augmentent, donc il faut augmenter les salaires. Le problème, c'est que la production alimentaire, des denrées alimentaires, elle, diminue. Oui. Donc, quand bien même vous augmentez les salaires pour lutter contre l'inflation, vous ne pouvez pas suivre la production. Donc il y aura quoi qu'il arrive de l'inflation. Elle ne peut qu'augmenter, malheureusement.
Catherine Rambert, est-ce qu'on se rend vraiment compte de ce qui va nous tomber dessus? Parce qu'on n'a pas l'impression, souvent on discute avec des gens, qu'on se rend vraiment compte que oui, le pire est devant nous, en fait.
Ben, on sent bien que ce n'est pas le meilleur qui se profile, hein, c'est clair. Alors moi, je me positionne davantage en consommatrice qu'en économiste comme Pierre. Moi, ce qui me panique et ce qui m'inquiète, c'est justement la panique qu'on sent chez les consommateurs. Pendant le Covid, confinement, les gens se ruent sur les pâtes, le riz, le papier toilette. Ok. on sort de ça, les gens se détendent, c'est bon et tout. On a, je pense que tout le monde a plein de pâtes et de riz chez soi, donc ça va aller. Là maintenant, pénurie d'huile de tournesol. De nouveau, c'est une espèce de panique, de fébrilité. On se rend bien compte qu'il n'y a plus de sang-froid, plus de confiance. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. Ça veut dire que le raisonnable n'est plus audible. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose, on a peur. Alors, on peut comprendre les gens, hein. Le contexte est très stressant. Mais moi, c'est plutôt ce point de vue-là qui m'inquiète. Je rappellerai quand même, alors la situation n'était pas la même, mais 74, premier choc pétrolier, l'essence avait augmenté de 400% en quelques mois. On est loin de ça, mais on est dans une crise qui s'annonce difficile, sous Raymond Barre et tout. Moi, j'étais née sous Raymond Barre, il y avait des l'inflation à 8, 10 et 12%.
14% de fin des années 70, 14%.
Ça ne veut pas dire qu'il faut souhaiter ça, ça veut dire qu'il y a un climat de panique, d'anxiété. Et puis,
mais c'est normal, c'est de la panique. Enfin, excusez-moi, quand vous voyez que tous les prix montent, et encore, on parle par exemple du paquet de pâtes, mais donc qui est passé de 1 euro à 1,30 euro. Mais on ne parle pas du gros œuvre. C'est-à-dire que le bois a augmenté, l'acier a augmenté. C'est-à-dire que le Français qui a toute sa vie rêvé d'acheter une maison, bah aujourd'hui, sa maison, elle coûte beaucoup plus cher qu'il y a 3 ans. Et donc, il va y avoir beaucoup de Français qui vont devoir faire des arbitrages dans leurs dépenses.
Et qui dit panique, dit violence. C'est-à-dire que quand on panique, quand on a peur, moi, je crains que, d'ailleurs, certaines grandes surfaces vont commencer à mettre en place des pare-feux pour pas que les gens partent avec les caddies remplis d'un seul produit pour faire des provisions, parce que les gens vont devenir dingues. C'est un petit peu ce qui m'a là qui m'inquiète, même si on le comprend.
Laurent Dandrieux, est-ce que vous avez conscience, vous aussi, voilà, que les gens regardent de plus en plus leur ticket de caisse, est-ce que vous sentez une inquiétude, vous?
Oui, je pense que l'inquiétude, elle est grandissante, parce qu'on ne voit pas très bien, on a l'impression d'être dans une espèce de spirale inflationniste dont on ne voit pas très bien comment on va pouvoir sortir. Normalement, l'avantage de la croissance, Pierre m'arrêtera si je dis une bêtise, de l'absence de croissance, c'est que ça freine l'inflation, mais là, comme les raisons de l'inflation sont exogènes à notre économie, cet effet-là ne se produit pas. Après, on parlait de panique. Il y a quand même, dans ces hausses de prix, il y a différentes choses qui sont pas du même ordre. C'est-à-dire que, par exemple, Catherine parlait du tournesol. Bon, là, il y a une raison, parce qu'il y a une pénurie, parce que le principal producteur mondial de tournesol, c'est l'Ukraine. Donc, on comprend qu'effectivement, il y a moins de tournesol, donc ça coûte plus cher. Donc là, il y a une forme de logique incompressible. En revanche, c'est vrai que dans la hausse des prix généralisée, généralement, le premier facteur, c'est la hausse du prix de l'énergie. Par exemple, c'est dans le coût du pain, par exemple, je crois que le coût du blé ne rentre que pour 5%, et la hausse de l'énergie impacte beaucoup plus la hausse du pain. Or, il n'y a pas de pénurie sur l'énergie. Là, on est vraiment dans un phénomène...
Pour
l'instant. Mais on est vraiment dans un phénomène spéculatif lié à une panique qui fait tente à laisser croire que peut-être il pourrait y avoir une pénurie plus tard. Donc, moi, je pense je suis surpris.
Je rappelle que la Russie vient de couper le gaz quand même à la Bulgarie et à la Pologne.
Oui. Alors par ailleurs, c'est vrai que moi, je dis ça depuis le début. Je pense que malheureusement, ces sanctions sur le gaz russe causent plus d'embarras aux populations occidentales que Vladimir Poutine, qui a pas l'air extraordinairement intimidé par ça pour le moment. Enfin, on voit pas que ça ait beaucoup influencé sur... Oui, d'accord, mais le but d'une sanction, c'est quand même qu'elle soit efficace. Là, l'efficacité, pour le moment, est surtout sur le panier de la ménagère occidentale.
Alors, dans un instant, on sera avec Emmanuel Lechypre, évidemment, notre spécialiste éco sur RMC. Mais avant cela, on va prendre Anne, qui nous a appelé de Quimper au 3216. Bonjour, Anne.
Oui, bonjour.
Eh ben, merci d'être avec nous sur RMC, Anne.
Moi qui vous remercie de m'avoir prise, c'est gentil.
Anne, est-ce que vous êtes inquiète? C'est pas grave, on est sympa, on ne mord pas, vous allez voir. Vous allez passer un bon moment.
On est bretonne en plus, donc ça va.
En plus, vous êtes bretonne, oui, alors ça, c'est évidemment un bon point. Anne, est-ce que vous êtes inquiète pour l'avenir, vous? Est-ce que vous avez commencé, à accommoder votre quotidien, à faire des petits sacrifices, notamment?
Ah bah alors écoutez, moi c'est depuis déjà l'été dernier j'ai commencé, j'ai anticipé je pense, j'ai commencé à faire à regarder, à prendre du local, des produits de saison, à faire mon propre petit potager. Alors vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de place pour faire grimper des plants de tomates cerises. Vous avez besoin de petites salades, il vous faut un petit bac. Enfin, vous voyez, vous faites un petit roulement et vous avez vos produits de saison. Ensuite, vous pouvez troquer aussi. Alors moi, je m'y connais un peu en informatique, donc j'aide les personnes qui ont des difficultés en informatique. En échange, ils me donnent des œufs, ils me donnent du poisson, des choses. Voilà, Vous arrivez toujours à trouver des astuces de toute façon.
C'est la débrouille, quoi, en fait, c'est ce que vous dites.
On revient comme avant, hein, de toute façon. Et puis vous cuisinez aussi, vous changez votre mode de cuisine, vous faites du vous-même. Enfin, vous préparez vous-même des ragoûts. Ça coûte pas excessivement cher, les ragoûts. Hein. Et puis vous faites plusieurs plats avec. Vous mettez au congélateur ce qu'il y a de le trop plein. Vous faites vous-même vos confitures avec les produits de saison. Ici, on a la chance en Bretagne. Ben, on a des kiwis, on a des pommes. Donc vous faites des
fraises.
Des fraises. Vous faites vous-même vos confitures, mais surtout, vous faites également vous choisissez vos boutiques. Vous n'allez plus dans les grandes surfaces où vous dépensez des fortunes avec des produits que, en général, vous n'utilisez pas ou peu. Et puis, vous allez dans les boutiques anti-gaspi. Alors là, vous voyez, je suis allée tout à l'heure dans une boutique anti-gaspi. J'en ai eu pour 27 euros. J'avais une caisse pleine, quoi. Enfin, vraiment. Vous faites. Vous essayez, il faut être curieux. Voilà. Regardez les étiquettes.
Et débrouillard, en fait.
Voilà. Vous changez votre mode de consommation. Et voilà. Et vous attendez que la crise passe, quoi. Enfin, je sais pas. Je comprends pas les
Vous êtes très philosophe, Anne, hein. Non, mais j'aime bien votre discours. Voilà. On change un peu nos mentalités. On attend que la crise passe.
Là où je voudrais pas.
On n'a pas le choix.
Là où je voudrais pas être pessimiste. J'admire l'optimisme d'Anne, mais quand elle dit attendre que la crise passe.
Elle est pragmatique.
Alors, pragmatique ou pas, parce qu'attendre que la crise passe, Emmanuel pourra le confirmer ou l'infirmer, Emmanuel Le Chypre, mais je ne suis pas certain que la crise va passer très rapidement. On est au devant, je pense, encore une fois.
Oui, mais Anne, elle a aménagé son mode de vie,
en fait. Bien sûr, mais je ne voudrais. Mais de là à dire qu'en attendant que la crise passe, je ne voudrais pas être le pessimiste qui broie du noir, mais je n'ai pas le sentiment qu'aujourd'hui, on est au devant de lendemains qui vont s'améliorer dans un positif quand on voit tout ce qui se passe actuellement. Peut-être que je me trompe totalement et que Anne a raison, elle est pragmatique, elle est optimiste et celle qui aura raison à la fin des fins. Aujourd'hui, attendre que la crise passe, est-ce qu'il va falloir attendre 2 ans, 3 ans, voire 10 ans, 15 ans, 20 ans?
Merci en tout cas Anne d'avoir été avec nous et de nous avoir donné vos petites astuces du quotidien. Merci beaucoup Anne. On est avec Emmanuel Le Chypre et quel bonheur d'être avec Emmanuel, notre spécialiste éco sur RMC. Salut Emmanuel.
Salut à tous les amis.
Emmanuel, écoutez, je vous appelle. C'est pas très gay là l'actualité quand même. On l'a dit, cette croissance nulle.
Pierre, il m'a donné envie d'aller me recoucher.
Là. Et moi aussi. Mais il fait à chaque émission, quel que soit le débat. Vous voyez, c'est comme ça.
Ah, oui. Non mais c'est Emmanuel, parce qu'il a pas envie de faire son potager, je crois.
Emmanuel, vous allez nous remonter le moral ou pas du tout là?
Oui, alors je partage un point avec Pierre, c'est que je pense qu'il y a des choses effectivement qui vont durer, c'est-à-dire qu'il va falloir s'habituer durablement, par exemple, à vivre avec des prix de l'énergie plus chers. L'énergie va prendre une part plus importante de notre budget dans les années qui viennent, et ça c'est pour des raisons purement mécaniques, hein. Le fait qu'on n'a pas investi dans le pétrole pendant 10 ans. Donc, on va être durablement dans une période où il va pas y avoir assez de pétrole pour répondre à la demande. Même chose pour le gaz. Les centrales nucléaires, les nouvelles qu'on nous promet, elles seront pas là avant des années, etc., etc. Donc oui, il va falloir vivre avec de l'énergie chère. Après, les produits alimentaires, c'est différent parce que c'est des problématiques de récolte, etc., de géopolitique.
Enfin, ils vont avoir du mal à semer en Ukraine, quand même.
Non, mais alors justement, c'est là où on est, moi je pense, à un point de bascule. Aujourd'hui, honnêtement, l'édifice de l'économie française, il tient, et comme dans beaucoup de pays d'ailleurs proches, parce que le marché de l'emploi tient. Le marché de l'emploi est en forme, il est sain. Et ça, quand vous regardez par exemple ce que vous dites les Français qui ont été interrogés par l'INSEE il y a quelques jours, ils disent « Ok, on fait le dos rond ». Mais quand vous leur demandez votre niveau de vie dans un an, vous le voyez comment? Ils le voient meilleur qu'aujourd'hui, plus élevé qu'aujourd'hui. Ils voient qu'ils vont épargner. Et donc, il y a cette idée qui est entrée, et exactement comme un peu ce que dit Yann, qui est que on vit une période temporaire. Ok, c'est dur, il faut aller puiser dans son pouvoir d'achat pour pouvoir acheter des choses qui sont temporairement plus chères. Et on n'est pas inquiet pour notre emploi. Et les Français ne sont pas inquiets pour leur emploi aujourd'hui. Et on a la même chose chez les entreprises. Les entreprises, pour le moment, elles investissent comme avant. On l'a vu dans les chiffres de croissance qui ont été publiés ce matin. Elles ont toujours autant d'intention d'embaucher qu'avant, et c'est toujours aussi dur de recruter.
Oui, donc, mais ça tant mieux. Mais sauf qu'on se dit aussi, en regardant les prix, Emmanuel, qu'il va y avoir des sacrifices à faire, encore une fois. Alors, là, je parlais du du prix des matières premières, le bois, l'acier. Comment vous faites si vous avez un projet, par exemple, immobilier? Aujourd'hui, vous voulez acheter une voiture. Votre voiture, elle va arriver dans un an et demi. Il y a plein de choses comme ça, quand même, qui font que. Donc, vous voulez acheter une voiture, vous dites, je l'achète pas maintenant parce que j'aurai dans un an et demi. J'attends le prochain modèle dans trois ans. Donc, tout ça, ça va ralentir certains secteurs, quand même.
Voilà. Non, mais c'est ça qui est. C'est pour ça que je dis qu'on est à un point de bascule. C'est-à-dire que, pour le moment, les entreprises, comme les ménages, considèrent qu'on vit une crise temporaire. En revanche, effectivement, on voit que et pourquoi on pensait que c'était temporaire, parce qu'on se disait qu'on allait se débarrasser gentiment du virus, que la guerre en Ukraine allait durer quelques semaines, et là on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit qu'en Chine on est en train de reconfiner, que donc toutes les problématiques de logistique qu'on avait avec les ports fermés, etc., ça va encore durer un moment, que la guerre en Ukraine manifestement elle va durer encore un moment, et que donc on est en train de s'ancrer dans cette idée de peut-être est-ce qu'on est en train de changer de monde. Et c'est là où il y a des repères qui sont... Moi, je comprends que les gens soient complètement bouleversés. Songez qu'un monde avec zéro croissance et 5% d'inflation, ceux qui ont moins de 40 ans ne savent pas ce que c'est. Ils n'ont jamais connu ça. Il faut remonter au milieu des années 80 pour
tout à fait.
Donc, moi, je comprends que les repères aujourd'hui soient considérablement perturbés, mais il faut quand même garder une certaine forme de raison. Et moi, je trouve qu'Anne, elle a raison. Il y a aujourd'hui quand même des marges de manœuvre. Il y a quand même des réserves qui ont été accumulées. Disons que
quand on aura fini les stocks, on va faire comment?
On peut pas dire aujourd'hui définitivement qu'on est en train de courir à la catastrophe. Voilà. Okay.
Il y a des motifs d'espoir.
Il y a quand même beaucoup de motifs d'espoir. Par contre.
Oui, moins 15% de chômage sur l'année, par exemple.
Non, mais effectivement. Ça, c'est des très bonnes nouvelles. Quand vous savez que, attendez, parce que la meilleure assurance contre la pauvreté et les difficultés de la vie, c'est quand même d'avoir un boulot. Même si on paye son essence plus cher pour aller bosser. Voilà. Donc ça, par contre, le jour où les entreprises se diront, là, ça commence à durer, moi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que le projet que j'avais d'embaucher, je le revois. Là, c'est là où, honnêtement, il faudra commencer à s'inquiéter. Et c'est à partir du moment où les entreprises commenceront à revoir en baisse leur plan de recrutement que là, on pourra se dire on risque de basculer vraiment dans la récession et pas seulement dans un simple ralentissement de la croissance.
Alors Emmanuel, on a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui nous appellent sur ce sujet. On est avec Anthony qui nous appelle de Laval. Bonjour Anthony.
Bonjour.
Alors Anthony, vous êtes auto-entrepreneur et vous ressentez très 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 durement l'inflation galopante. Hein.
Ah bah oui, tout à fait. Je peux pas être trop d'accord avec Emmanuel Le Chypre, comme souvent d'ailleurs. ce qu'il y a, par exemple, moi j'ai commencé mon activité il y a un an et demi.
D'accord.
Je fabrique des petits tabourets en bois gravés, personnalisés pour les enfants. Voilà. Les tasseaux que j'utilise pour faire les pieds, j'ai acheté ça par lot de 4, je payais ça 14,50€.
D'accord, pour 4 pieds.
Voilà, pour le lot de tasseaux de 2,40m.
Ah oui, d'accord, ok.
Voilà. Aujourd'hui, ils sont à 27,90€.
Ouf, donc x2.
Il y a un an et demi 14, aujourd'hui 27. Bien sûr.
C'est ça. Donc du coup, comment je fais moi? J'y suis allé ce matin, j'ai halluciné. J'arrivais avant, entrepreneur, à avoir une petite remise de la part de mon fournisseur. Là, ce matin, il m'a dit, fini les remises. C'est fini, je peux plus, j'ai plus le droit. Voilà. Donc du coup, je fais comment? Je suis sur un prix bas sur mon produit parce que moi, je veux que mon produit, il y ait plus de personnes possibles qui puissent en profiter. Seulement, donc c'est pour ça que j'ai mis un prix bas volontairement.
Ils sont à combien vos tabourets, Anthony?
Ils sont à 31€. J'ai 2h30 de travail dessus minimum.
Ah oui, 31€, évidemment, si vous achetez vos tasseaux 28€, c'est sûr que oui, votre marge, elle est faible. Donc, si c'est 3€ par tabouret, ça va pas le faire, c'est sûr.
J'ai pas le choix, je suis chez moi. Alors, je pars toujours du principe où celui qui se contente de peu ne manque de rien. Donc moi, donc j'arrive à avoir 1000€ par mois, je travaille chez moi, je demande pas plus. Mais c'est vrai que là, ça commence à être compliqué quand même.
Et c'est ce que vous avez? Vous avez 1000€ par mois aujourd'hui?
À peu près.
Vous faites comment avec 1000€ par mois, Anthony?
Alors, j'ai ma compagne qui travaille à côté, bien sûr. On fait attention à toutes nos dépenses tous les mois. Voilà, je fais attention. Je ne me plains pas parce qu'on vit très bien. J'ai ma maison. Voilà, puis j'ai travaillé avant aussi. Donc là, je vais avoir 35 ans. J'ai eu le temps d'épargner avant. Mais c'est vrai que la vie augmente et à tout point de vue.
Je précise que 1000€ par mois, c'est sous le seuil de pauvreté.
Bien sûr.
Ah oui, tout à fait. Oui. Mais comme je dis, je pars du principe où celui qui se contente de peu ne manque de rien. Donc du coup, je fais mes petits légumes à côté, je fais attention à mes sorties. Les restaurants, de toute façon, j'ai pris l'habitude de pu y aller, comme ça c'est réglé. C'est vraiment un plaisir d'y aller de temps en temps. Le cinéma, c'est pareil, et puis voilà. Mais bon, après, j'ai la chance de pouvoir faire autre chose à côté. Je profite de la nature, je profite de tout ce qu'il y a, et c'est comme ça qu'on s'en sort. Mais,
Est-ce qu'à terme, vous allez répercuter la hausse de vos coûts sur le prix de vos tabourets? Vous pensez que vous allez être obligé de le faire?
Ah, là, je ne vais pas avoir le choix. Là, clairement, mais ça ne va pas être énorme. Hein, ça va être 2 euros. Mais je n'ai pas le choix, en fait. J'ai vraiment pas le choix. Et je ne veux pas. Hein, ça m'arrache le cœur de pouvoir. Parce que je fais ce travail-là. Moi, j'ai pris l'initiative de faire ce travail-là pour gagner ma liberté. Je me sens libre. Et tous les jours, je me dis que quand je travaille, j'ai gagné ma liberté. Je suis content. Et j'ai pas envie que ce soit l'argent qui dirige ma vie. Pas du tout. Donc du coup, je suis heureux de ce que j'ai. Mais au bout d'un moment, c'est pareil, j'ai 3 enfants, moi, en bas âge.
Bien sûr.
Faut apporter à manger à la maison. Hein. Donc c'est compliqué.
Ben merci beaucoup en tout cas Anthony pour ce témoignage et effectivement ben voilà on voit bien concrètement en quoi cette inflation elle pèse bien sûr sur le moral des Français sur leur travail.
D'autant qu'avec une croissance zéro les entreprises vont pas pouvoir augmenter leurs salariés quoi. Et donc du coup
déjà que même quand elles sont en croissance elles le veulent pas,
c'est
donc
un peu la double peine hein.
Mais on voit surtout, c'était très Catherine intéressant Robert. Ce qu'a dit aussi Emmanuel Le Chypre effectivement sur les perspectives de l'économie en France, c'est pas pire, il y a de l'emploi etc. On voit bien la lecture vue du haut et puisque la différence de ce que vivent les gens. C'est-à-dire, je pense qu'Emmanuel Le Chypre a raison de nous rassurer, mais effectivement, la vie des gens, quand même, est beaucoup, beaucoup plus dure. C'est un pléonasme, mais c'est toujours intéressant ce décalage de perception.
Et on est également avec Philippe et Philippe qui nous appelle de Montluçon. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Et Philippe, vous êtes en recherche d'emploi, donc j'imagine que ça doit être encore plus compliqué pour vous.
Alors moi je vais faire le plus rapidement possible hein, parce que vous n'allez pas perdre de temps. Je vais vous faire.
Je ne perds pas de temps avec vous, Philippe. Il n'y a pas de souci. Hein.
C'est très gentil, merci. Je vous fais un historique très rapide de ma petite vie. Alors je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières. Il y a des gens bien plus malheureux. Il y a des enfants qui souffrent partout. Bref, je donne juste un exemple. Hein, inutile de. Enfin, personne ne va penser ça, mais j'essaye pas de faire le misérable. Il y a 2 ans, j'ai perdu mon boulot à cause du Covid. Ma boîte a fermé. Pas de souci. Depuis 2 ans, donc j'en avais 46, j'en ai 48 désormais, j'enchaîne les petits CDD. Ma compagne travaille, elle bosse elle fait des ménages, voilà, fait des ménages. Et donc on a évidemment des salaires qui sont très bas. Donc en l'occurrence, depuis que je suis au chômage, je perçois un salaire de 1090 euros en moyenne auprès de Pôle emploi. Mmh. Et j'alterne évidemment énormément de CDD. Tous ces petits CDD, alors entre guillemets, c'est pas de ma faute, mais j'ai juste un bac littéraire et j'ai pas de diplôme plus que ça.
D'accord.
J'ai pas de bac plus 2, plus 3 ou quoi que ce soit. J'ai une grosse expérience dans le commerce, plus de 25 ans, et dans le service et l'accueil, donc je suis plutôt à l'aise avec ce domaine-là. Le truc, c'est qu'à chaque fois que je trouve du travail, est-ce que c'est la région qui est sinistrée ou pas, tout le temps je trouve des boulots qui sont payés au SMIC. Donc 1200, 1300, 1400 euros avec quelques variables, des primes de ci, de là, mais ça ne change pas grand-chose. Et là, tout récemment, alors là j'ai le téléphone à l'oreille, je peux pas vérifier. Peut-être que vos intervenants. Vous-même pouvez vérifier le prix à l'instant T là en moyenne du fuel. C'est parce que je voulais juste vous donner un exemple comme j'expliquais.
Ouais, c'est un 80 un peu dans du fuel. Non, je pensais que vous parliez du gasoil. Non, du fuel, je sais pas.
Non, ouais. du fuel. Ouais. Là, on doit être autour de 2 euros, je crois, si je dis pas de bêtises, le litre. Avant la guerre en Ukraine, il était pratiquement 50% moins cher. Donc moi, je pouvais faire rentrer pour ma chaudière autour de 500 litres. Et j'avais la chance de pouvoir payer en 2 fois, donc c'était très pratique. Là, maintenant, je ne peux plus faire rentrer de fuel. Donc quand vous parlez de 37% de Français qui ont du mal à boucler les fins de mois, moi ça me terrorise et ça me fait de la peine. Dans ma famille, je suis connu pour être quelqu'un de très positif, de pas avoir jamais de baisse de morale. Mais là en ce moment, avec le contexte international, le contexte économique, le contexte politique, le contexte financier qu'il y a, je vous cache pas que je trouve ça vraiment vraiment triste et je suis très très inquiet malgré tout du devenir et de l'avenir qui se profile pour nous. Juste un exemple, après je vous laisse parler parce que je suis désolé, je suis dithyrambique. Mais vous voyez aujourd'hui là, au jour d'aujourd'hui, je suis à moins 75 euros de découvert. C'est une somme qui est ridicule. Malheureusement, je suis à découvert depuis plusieurs semaines, voire presque un mois. Donc ma banque, que je ne citerai pas, qui a le même nom qu'une capitale française, il y en a qui.
Ok.
Bref, pour l'instant, elle est plus ou moins indulgente, mais va me prendre, par exemple, j'ai vérifié tout à l'heure, 140 euros de frais, parce que je suis à 140 euros de découvert. 140 euros de frais.
Donc c'est
là,
énorme.
Je vais me séparer de négocier. Quelques objets personnels. Je peux pas négocier, je peux plus négocier, ils sont pas d'accord.
D'accord.
Pas. Bon, bref, je vous dis, j'essaie pas de faire pleurer dans les chômeurs ou qu'on réclame quoi que ce soit, mais c'est que, comme Emmanuel l'a dit, il y a des choses qui sont positives. Il faut croire en l'économie, il faut croire, effectivement, sur une économie qui peut repartir sur plein de choses très positives. Mais au jour d'aujourd'hui, chaque personne, ces fameux 37%, des petits gens descendants, comme disait un certain François président,
des gens qui touchent entre 1000 et même jusqu'à 2000 euros net. Ça peut paraître une grosse somme par rapport à chez nous dans les campagnes, mais jusqu'à cette somme-là, on est des gens qui galèrent. On galère tout le temps, tout le temps. Une fois qu'on a payé nos charges, une fois qu'on a payé le fuel, par exemple, la nourriture, toutes les matières premières qui augmentent et le loyer, on se retrouve avec rien du tout. Et donc, comment voulez-vous que le moral augmente? Comment voulez-vous que...
Ben, c'est impossible.
C'est très, très compliqué, à plein de niveaux. Alors, je vous dis, je recherche pas quoi que ce soit, je demande pas l'aumône ou quoi que ce soit, il y a des gens très malheureux partout. Mais mon exemple est très probant, je pense.
Tout à fait.
Et le moral des Français, ça me désespère. Et c'est, voilà. Je suis désolé, j'ai été,
Mais Fib, moi, je comprends, votre désarroi. En plus, vous le dites, voilà. Franchement, vous avez pas eu de chance. Votre entreprise qui ferme à cause du Covid. Vous enchaînez les CDD. Moi, franchement, je vous souhaite bon courage. Et surtout, j'espère que vous allez vite retrouver un emploi. Parce que, déjà, voilà, vous parlez extrêmement bien. Vous êtes dans le commerce. Normalement, je me fais pas de soucis. Ça doit marcher. En tout cas, bon courage pour la suite, Philippe. Et puis, merci vraiment de nous avoir appelé parce que c'est un témoignage qui était très, très intéressant. Intéressant et assez poignant, effectivement. Et vous avez beaucoup d'autres témoignages, justement, de la même veine, j'ai envie de vous dire, Martin.
Exactement, sur Direct Studio, vous êtes nombreux à nous faire part globalement des mêmes sentiments, des mêmes émotions que celle de Philippe. Il y a Gwendoline, notamment, qui nous explique que oui, elle a peur pour l'avenir. Le GIEC nous explique que tout sera tombé d'ici 3 ans. La Troisième Guerre mondiale est évoquée.
On n'a pas encore parlé
de ça. Ça semble de plus en plus inéluctable. En plus de ça, on ne s'en sort plus dans la vie de tous les jours. Elle est mère célibataire, elle tremble à chaque passage en caisse. Voilà ce qu'elle nous écrit sur Direct Studio. Elle n'arrive plus à payer toutes ses factures. Au point qu'elle n'arrive plus, nous dit-elle, à s'empêcher de dire qu'elle a été égoïste de faire un enfant. Voilà ce que nous raconte Gwendoline sur Direct Studio.
Ah, c'est dur pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français. En tout cas, merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont appelés au standard au 32-16. Et merci à Emmanuel Lechypre, notre spécialiste éco sur RMC, d'avoir été avec nous.